Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à cette rencontre avec Monique Hervault. Merci, madame, d'avoir accepté cette invitation, et Laurent Maffre. Donc, je vais vous présenter Monique Hervault. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc cette rencontre a été organisée pour parler de ce livre, Nanterre en guerre d'Algérie, qui est édité aux éditions Actes Sud, que vous pourrez regarder, et Demain, cet album graphique, Demain, Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966, qui est paru également chez Actes Sud. Voilà, donc je voudrais vous parler un petit peu de Monique Hervault avant de lui donner la parole, parce qu'elle a eu une vie longue et remplie. À 16 ans, en mai 1945, elle fait partie des équipes d'accueil pour les déportés qui reviennent des camps. En 1947, elle entreprend des études d'art décoratif puis de beaux-arts à Paris et elle devient maître verrier. Et elle réalise d'ailleurs des vitraux. Parallèlement à cette activité, elle donne des cours d'alphabétisation pour les travailleurs algériens et s'engage comme bénévole sur les chantiers d'urgence pour l'amélioration de l'habitat. Elle devient permanente au service civil international. En 1959, elle entre, s'installe et travaille dans le bidonville de Nanterre, partage le quotidien des familles habitantes et fera partie du cortège de la manifestation durement réprimée du 17 octobre 1961. Écrivain public permanente à l'Association pour la promotion algérienne, elle demeurera dans le bidonville jusqu'en 1971, date à laquelle il sera résorbé. Après avoir été dessinatrice maquettiste chez Maspero puis au PUF, elle participe en 1972 à la fondation du GISTI, groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, au sein duquel elle militera de 1973 à 1977. Elle apportera son soutien à la lutte des foyers de travailleurs africains. Elle entre comme permanente salariée à la CIMAD et devient responsable du service logement des immigrés. Et de 1981 à 1986, elle travaille à la résorption des cités Sonacotra, puis elle devient professeure à Grenoble dans le cadre de l'insertion professionnelle. Voilà, elle nous parlera de ce qu'elle a fait après. Mais voilà, vous voyez, c'est à la fois un peu bref, un peu court pour un engagement de toute une vie. Et au vu donc de ce que je viens de vous dire et puis de la parution de ce livre, on comprend pourquoi Monique Hervault est un témoin exceptionnel de cette époque et pourquoi de jeunes historiens s'appuient sur son témoignage. On verra aussi, lors de cette séance, comment la bande dessinée, la littérature romanesque ou documentaire s'empare de cette histoire algérienne. Et nous verrons également quelle part prend aujourd'hui cette histoire en France, quelles sont les formes aujourd'hui les plus à même à rendre compte. Donc, je vais vous présenter aussi Laurent Maffre, qui a fait cet album graphique. Donc, à la croisée du documentaire et de la fiction, c'est ça ? Le destin d'une famille algérienne du bidonville de Nanterre à son relogement. Et en fin de volume, 20 pages de documents inédits racontés par Monique Hervault. Donc, dans le livre, il y a aussi vous avez pris beaucoup de photographies. Enfin, il y en a quelques-unes, en tout cas, dans le livre. Voilà. Donc, vous pourrez regarder. C'est pas la première publication. Hein. J'ai vu qu'il y en avait déjà eu une en 2009.
Il a été édité en 2001 au Seuil et réédité là récemment par Actes Sud, puisqu'il était très demandé. D'autre part, j'avais sorti un autre livre alors, qui est épuisé depuis très longtemps, puisqu'il est sorti en 1971. C'était à partir des interviews surtout que j'avais fait une analyse aux éditions Maspero.
C'est ça. Et puis, alors pour finir, donc sur Laurent que je n'ai pas présenté encore, qui est professeur agrégé, enseignant, il enseigne les arts appliqués à Paris, aux ARSA. Non, oui. Il a publié une adaptation sélectionnée à Angoulême en 2007 de L'homme qui s'évada d'Albert Londres, que je vous recommande, qui a été publié en 2006. Hein, c'est ça, oui. Et puis Les chambres du cerveau, d'après une nouvelle de Stevenson en 2008. Donc il nous parlera de cet album graphique lui-même. Et enfin, je voulais juste mentionner ce web documentaire qui est plutôt une frise multimédia qui s'appelle 127 rue de la Garenne, le bidonville de la folie Nanterre, qui est à voir ou à écouter sur le Arte TV, arte.tv, et qui a reçu un prix. Voilà, c'est pour ça que nous n'avons pas avec nous l'éditeur ce soir, parce qu'il est allé recevoir la récompense. Voilà. Donc cette frise qui est aussi liée à ces chroniques. Voilà, donc je vais vous laisser la parole, Madame Monique Hervaux. Dites-nous cet engagement qui semble avoir été celui de... Oui, on va lui mettre... Tu veux pas le...
Qu'est-ce qui se passe ?
Je vais mettre le micro sur...
Donc cet engagement qui a été... Dès votre adolescence, comment...
C'est-à-dire que moi, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai été confrontée à une guerre, mes parents étaient à Paris, donc à des bombardements, à voir des corps, les bombes, et ensuite l'exode. J'ai vécu l'exode et aussi, je dirais, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est après on est parti, on est revenu, c'est l'occupation. Voilà. Qu'est-ce qu'une occupation ? J'ai beaucoup de mal à expliquer ce que ça peut, ce qu'on peut ressentir sous une occupation, dans la mesure où on n'a pas vécu une occupation. Et pour moi, ça m'a marqué. Tout ça m'a marqué définitivement. Et en plus, je dirais, mon père avait fait la guerre de 14-18 dans les tranchées, gazé, et il me parlait toujours de sa guerre, je dirais. Et nous étions très pauvres, nous habitions à Paris dans un hôtel meublé, et j'aurais aimé avoir des livres qui me permettent, j'avais confiance en mon père, en ce qu'il me disait, mais d'en savoir beaucoup plus. Et je pense que ça a eu une influence sur moi quand je me suis retrouvée sur un des bidonvilles de Nanterre qui était quand même, il faut se représenter, 10 000 personnes. Donc, une ville dans la ville. Et que, je dirais presque instinctivement, je ne me suis pas dit ça sur le moment, mais très rapidement, j'ai pensé qu'il fallait noter ce qui se passait sur le bidonville, puisque c'était, je suis arrivée au bidonville en août 59. Il y a eu toute une période où le FLN en 61 m'a demandé, avec une équipe que j'avais du service civil, de coucher sur le bidonville même pour assurer au besoin certaines urgences médicales, puisque c'était... Si vous voulez, c'est avec la distance et aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était comme si c'était une surface extrêmement grande. Vous pouvez la mesurer puisque ce bidonville, parmi les 17 qu'il y avait à Nanterre à l'époque, ce bidonville est représenté par le parc Malraux qui est à Nanterre. Voilà, c'est toute cette surface. Donc... C'était pour moi comme un continent, sur un autre continent, un mur qui n'était pas visible, avait pas de fil de fer barbelé, mais c'était la même chose avec tout ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai noté, et c'est ça l'important, et je pense que beaucoup d'historiens sont intéressés par mes archives, dans la mesure où je notais jour par jour, en style télégraphique, mais je notais tout ce qu'il y avait d'important qui s'était passé. Et c'est ça que vous retrouvez dans le livre. C'est un carnet de bord et ce n'est pas des archives que j'ai constituées après, avec un souvenir qui forcément, avec le temps, déforme. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais là, d'ailleurs, j'ai eu confirmation, si vous voulez, que ces archives, tous ces bouts de papier, je les avais accumulés dans une cantine. Et par la suite, avant de faire justement ce livre, j'ai ouvert la cantine et j'ai regardé. Et j'ai été frappée par la monstruosité que je revivais, parce que vous savez, on atténue quand même avec le temps, parce que sinon on ne pourrait pas survivre. Donc j'ai atténué, et quand je me suis retrouvée là, je me suis dit, mais mes amis algériens, mais c'est impossible qu'ils aient vécu cet enfer. Et c'est pour ça que j'ajoute beaucoup d'importance sur ces archives qui datent de l'époque même.
Donc cette conscience, enfin cette volonté...
Vous pouvez juste parler un tout petit peu plus fort.
Parce oui, que cette volonté, vous avez tout de suite, donc vous venez de nous l'expliquer, pris des notes, mais oui. Vous avez aussi fait des photos.
Oui.
Vous avez même fait des enregistrements.
Oui.
À la même époque.
Alors non, les enregistrements ont été faits par la suite.
C'est ça.
En 66-67. Les photos, par contre, ont été faites à l'époque. Mais je dirais, il ne faut pas croire que s'il y a eu une guerre, tout s'arrête. Non, il y a une vie qui continue. Et avant 61, il faut bien noter, plutôt vers 59, fin 59, début 60, un certain nombre de familles m'ont demandé de prendre des photos. Je pense que même elles-mêmes, sans se le formuler, et moi je leur disais, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais j'essaierai de toute façon qu'un jour, vous voyez,
De témoigner.
Et je pense qu'elles-mêmes avaient le sentiment aussi qu'il fallait, même sans se le formuler, mais qu'il fallait laisser trace.
Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez été la seule personne à cette époque-là et pendant ces années-là.
Eh bien, c'est-à-dire que le bidonville, alors, était complètement isolé parce qu'il y avait très peu de personnes qui y allaient. Il y avait une assistante sociale, mais qui était d'un service extérieur. Qui était en marge, parce qu'il faut expliquer que par rapport à la guerre d'Algérie, vous aviez des quantités d'organismes, aussi bien politiques qu'autres, qui, à l'intérieur, vous aviez des personnes, mais très peu, qui voulaient s'engager pour l'indépendance de l'Algérie, mais... Les organismes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient, parce qu'il y avait eu quand même les pouvoirs spéciaux qui avaient été votés par tout le monde, au niveau même des associations, on ne voulait pas trop s'engager Parce que on allait avoir les subventions coupées, puisqu'on a les subventions qui sont données par le ministère de l'Intérieur. Et au service civil, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu une scission où mon équipe, on a dit non, nous défendons, effectivement, nous voulons de l'indépendance de l'Algérie. Le service civil dans son ensemble, en majorité, a dit non, parce qu'on ne pourra plus continuer à faire notre travail. Donc, il y a eu scission et on a été en fait financé par ceux qui sortaient du service civil pour nous aider individuellement, sans une organisation particulière. Et c'est ce qui s'est produit aussi avec cette assistante sociale dont je vous parle, qui s'est engagée et qui, la directrice du service, c'était le SSFNA, voulait un peu jouer sur les deux tableaux, sans trop. Vous voyez, parce que c'est ça qui a existé vers la fin de la guerre d'Algérie ici en France. Et puis, alors vous aviez une autre personne qui était toujours, alors en permanence, qui s'occupait des nouveau-nés, c'était une bonne sœur. Voilà. Mais à part ces personnes, et quelquefois va-et-vient d'un groupe ou de quelqu'un qui venait ou à l'occasion d'un incendie amenait des vêtements, mais ne faisait que passer. C'était, si vous voulez, une chasse. Enfin bon, on ne pénétrait pas. Et ce qui m'a toujours frappée, c'est que les Algériens et les femmes algériennes notamment me disaient « mais on comprend rien, nous, parce que nous, les métropolitains, c'est pas comme les colons », ce qu'ils ont dit au départ. Après, c'était différent, parce que ils voulaient le contact avec les Français, ils voulaient quelque chose, enfin, de normal, et comme il y a une culture très tournés vers l'hospitalité, ils étaient étonnés de cette espèce de fermeture. Alors, cette fermeture était aussi, je dirais, aggravée aussi du fait même que nous avions continuellement la police, non seulement la police, la gendarmerie, les harkis, la SAT, les aides médico-sociales itinérantes, et tout ça, comme la SAT arrivée d'Algérie, qui était implantée sur Nanterre, avec un dénommé capitaine Montaner, qui disait « moi je connais les bidonvilles en Algérie, à Alger même, je vais faire la pacification dans Nanterre, dans les bidonvilles ». Donc, si vous voulez, tout ça a contribué aussi à faire une cassure entre la population française et les Algériens qui étaient sur le bidonville, vous voyez.
Oui, oui. Donc c'était un endroit très isolé, mais vous avez, dans ce livre qui circule là, je crois, vous avez rendu la vie quotidienne, vous en parlez d'une façon assez extraordinaire, et je vous recommande vraiment de lire ce livre, parce que oui, Cyrielle, elle l'a lu. Tu veux dire quelque chose, Cyrielle, sur non? En fait, en tout cas, moi aussi je l'ai lu, mais je pense que vous, c'est un sujet pas facile, mais que on a l'impression de vivre, de voir comment les conditions, de voir comment ça se passait, de voir ce que vous y faisiez. Enfin, c'est franchement très prenant.
Bah, c'est-à-dire que je suis venue vraiment. Je devais au service civil avant d'aller au bidonville. Avant ça, on m'avait demandé d'aller à Madras. Et après, on m'avait proposé au service civil d'aller dans les camps de réfugiés, d'enfants réfugiés en Tunisie, à la Marsa. Et moi, si vous voulez, peut-être très terre à terre, je me suis dit, il y a le bidonville de Nanterre, et il faut d'abord balayer devant sa porte. Voilà. Et je n'y allais pas avec mon équipe, je n'y allais pas dans un but, dans un but de militant. Voilà. J'exclus le terme de militant pour moi, parce que les gens savent très bien ce qu'ils ont besoin, savent très bien ce qu'ils recherchent. Et moi, je suis arrivée, je dirais, sur la pointe des pieds dans ce bidonville, parce que c'était au fond partagé de visu que j'étais avec le peuple algérien. Parce que j'aurais pu aussi bien être porteur de valises dans la clandestinité. Et j'ai choisi que ce soit au contraire visible. Voilà. Alors effectivement, on a été arrêté, on a été interdit, soi-disant, de pénétrer sur le bidonville, etc. Mais moi, c'était ne rien imposer, c'était savoir ce que les gens avaient besoin, leur demande, et tout de suite, ce qui s'est enclenché, c'est que 5 familles avaient eu leur baraque complètement détruite, et à ce moment-là, moi ayant l'habitude des chantiers d'urgence, on a aidé, on s'est fait plâtrier, maçon avec eux, et puis petit à petit, on a fait aussi ce qui était demandé, c'est-à-dire un certain nombre de papiers à remplir, et tout de suite, je l'ai su après la guerre, parce que c'est la clandestinité, n'oublions pas, le FLN a fait une réunion à l'intérieur du bidonville pour savoir si on nous gardait ou pas. Et ils estimaient qu'il fallait nous garder parce que ça permettait justement que les services sociaux qui étaient très souvent en lien avec la SAT et avec la police, était beaucoup moins au courant de tous les problèmes familiaux des familles. Voilà. Et après, ils ont demandé, il y a eu par la suite une autre réunion pour demander, ils voulaient que je rentre moi-même dans le FLN. Et ils ont dit non, dans la mesure où j'avais l'équipe bien en main, parce que vous savez, la clandestinité, il faut tous rentrer dans une oreille et rien sort de l'autre. Hein. C'est quelque chose que nous sommes arrivés à respecter vraiment complètement.
Et donc, cette rencontre avec Laurent Maffre, comment s'est-elle faite ?
En fait, elle s'est faite pas au tout début du projet en fait, de bande dessinée, puisque quand moi j'ai décidé de travailler sur le sujet du bidonville de Nanterre, une fois que j'avais déterminé que je voulais travailler sur ce sujet-là, je cherchais les livres qui avaient été édités dessus.
Comment vous avez décidé de travailler sur le bidonville de Nanterre ?
Ça, c'est parce que à prolonger un peu l'expérience que j'avais eue avec mon premier livre sur l'adaptation des enquêtes d'Albert Londres sur le bagne. Et ce qui m'avait intéressé dans ce travail-là, c'est que il proposait une lecture du bagne à travers la trajectoire individuelle d'un bagnard. Et c'est une trajectoire individuelle qui nous permettait de comprendre un contexte plus général. Ce qui permettait d'éviter en fait, d'avoir une sorte de narrateur qui serait un peu un surplomb de la scène ou de l'objet qu'il traite, mais au contraire, il rentrait par le témoignage et du coup, il incarnait de manière différente une période, ce qui permettait de rendre aussi plus sensible certaines choses. Et la difficulté que j'avais éprouvée là-dessus, elle était double, c'est que d'une part, c'était une époque plus éloignée, puisque c'était les années 20, au moment de l'enquête d'Albert Londres, et donc il n'y avait plus de bagnards, je ne pouvais plus en rencontrer. De toute façon, j'étais sur un travail d'adaptation. Et d'autre part, c'était en Guyane, ce qui n'est pas la porte à côté. Donc c'était compliqué pour aller faire des repérages, par exemple, de lieux. Donc je me suis dit, je vais travailler sur un sujet qui sera moins éloigné géographiquement et moins éloigné temporellement pour pouvoir rencontrer des témoins. En fait, le fait que le sujet du bidonville soit plus proche ne m'a pas franchement aidé, parce que c'est à Nanterre, mais comme il n'existe plus, voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses que je pouvais dont je pouvais me rendre compte en allant aujourd'hui à Nanterre. Mais l'idée était celle-ci, c'était de travailler sur une zone d'ombre de l'histoire de France, un peu comme Albert Londres avait abordé le bagne, et dès le départ, de me dire « je veux aborder cette histoire » à partir du témoignage. C'est-à-dire que je veux rencontrer des personnes qui ont vécu cette période-là. J'ai pas lu, par exemple, de livres d'historiens sur la période. J'aurais pu commencer par lire les bouquins de Benjamin Stora ou autre. Mais en fait, j'ai préféré essayer de rentrer par l'intérieur, en fait, du sujet. Et du coup, j'ai cherché les livres qui avaient été publiés là-dessus.
Puisque c'est un endroit qui n'existe plus, et que est-ce que c'était particulièrement la guerre d'Algérie ou les immigrés ou merci. Comment je comprends bien ouais. Cette partie une partie de l'histoire zone d'ombre, une partie témoignage, mais pourquoi précisément le bidonville de Nanterre Alors, comment vous en êtes arrivé là ?
Je reviens sur le sujet sur le bagne, parce qu'en fait, pour moi, c'est l'esquisse de ce livre-là, vraiment. Mais ce que j'avais trouvé intéressant dans un travail d'adaptation en travaillant sur une époque qui était révolue, c'est de voir en fait qu'un certain nombre de problématiques qui sont posées à un moment donné de l'histoire, qui sont souvent enfouies parce que justement elles sont trop problématiques, ressurgissent de manière continuelle dans notre société. À l'époque où je travaillais sur le bagne, on était en plein débat sur la double peine, on était en plein débat suite au livre de Vasseur sur l'état de la prison de la santé. Il y avait un principe de doublage au bagne qui est exactement un principe de double peine. Il y avait des questions aussi liées à la précarité de détention et aux conditions de détention. Donc je trouve intéressant à un moment que parler de l'histoire et nous éclairer un tout petit peu ou nous reposer les choses de manière différente sur notre lecture de la société actuelle, c'était une démarche qui m'intéressait. Donc le sujet du bidonville ou le choix du bidonville, il est aussi certainement apparu parce qu'à un moment, il y a dans les débats la société aujourd'hui, il y a des questions qui sont liées à l'immigration, il y a des questions qui sont liées à la précarité du logement, hein, à la précarité de vie, à des populations que l'on gomme des statistiques, par exemple, et que l'on sort du radar pour moins les voir. Et je pense qu'à un moment, le choix du bidonville, c'est pas... Je ne détermine pas mon sujet de manière très scientifique. C'est très intuitif. C'est des choses qui me conduisent progressivement à me dire ça pourrait être intéressant de travailler sur ce sujet. Parce qu'il y a... en fait, du moment où j'ai... Enfin, le bidonville, c'est aussi apparu parce que j'avais fait deux ans avant un petit voyage à Djibouti dans le cadre d'une manifestation du livre, autour du livre. Et on avait été amené à intervenir dans quelques écoles, dont certaines qui étaient dans des bidonvilles. Donc j'avais une sorte d'expérience un peu touristique, presque, parce que je passe et puis je ressors. Mais il y avait des choses assez belles, de traverser un taudis et de voir qu'au milieu, il y avait le seul bâtiment construit, c'était l'école. De voir que tout autour, c'est une misère, mais au milieu, les enfants étaient super bien habillés. Quand Monique me parle du bidonville, de l'attention des parents vis-à-vis de leurs enfants qui partent à l'école, de leur inquiétude que la moindre trace trahisse leur appartenance au lieu de vie qui est celui du bidonville. Il y a tout un tas de choses qui se retrouvent, des ponts qui se créent comme ceci. Donc c'est plein de questions un peu comme ceci qui se sont liées, et je crois que le fait de travailler sur le bidonville de Nanterre, en plus au début, moi je pensais que c'était le bidonville de Nanterre, ce qui est une... Enfin, Monique me pardonne maintenant d'utiliser ceci, mais j'ai déjà découvert qu'il y avait plusieurs bidonvilles à Nanterre. Et puis, en fait, quand j'ai pensé aux bidonvilles et que je me suis dit que ça serait intéressant de travailler sur une autre période qu'aujourd'hui, la référence m'est arrivée assez rapidement, parce qu'elle véhiculait aussi toute une mémoire liée au milieu ouvrier, au milieu du bâtiment, etc. Donc ça, elle s'est imposée un peu... comme ça, et du coup après j'ai fait un peu le tour le tour des sources qui avaient été, enfin des livres qui avaient été édités, et je me suis aperçu que finalement il n'y avait pas grand chose. Il y avait le livre de Monique qui est qui est quand même le point de départ après de ma réflexion sur le sujet, mm-hmm. puisqu'en fait c'était sur le témoignage, et en plus à cette époque-là elle avait une série d'émissions avec Mermet, je crois, ou alors c'était à la Fabrique de l'Histoire, je sais plus. Je me disais, mais ça serait très bien de rencontrer Monique Hervault, mais en fait je savais pas du tout comment la contacter. Et le deuxième livre, c'était un livre de Sayad sur Nanterre en guerre Nanterre, bidonville algérien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était un petit livre assez concis. Et après, pour les photos du bidonville, ce qui est très bien maintenant, c'est que les photos sont sorties, on en voit dans l'expo à la Cité de l'Immigration, on en voit de nouvelles dans le livre de Monique, d'autres photos vont être déposées à la BDIC. Donc ces photos, elles existent, mais... Il faut juste se rappeler qu'il y a 2 ans, en fait, du bidonville de Nanterre, il y avait, je pense, 20-25 photos qui avaient été publiées. Ce qui est quand même rien. Enfin, en comprenant les photos de Monique, il devait y en avoir une dizaine, celles qu'il y a dans ton livre, là. Et il devait y avoir une dizaine de clichés de Jean Potier. Et c'était tout, en fait. Enfin, l'histoire de ces populations, de ce qui restait de 10 000 habitants... pendant 2 décennies, c'était 25 photos et 2 livres.
Deux livres. Bon, pas des moindres, mais...
Effectivement, les photos, ça prend beaucoup de temps pour que certains organismes s'intéressent à des archives. Alors, j'ai en tout... pas seulement du bidonville, mais des bidonvilles de province, et à la fois, par exemple, le complexe de fosses sur mer qui avait été construit, et notamment aussi toutes les lignes de TGV, chemin de fer, où les travailleurs algériens et marocains travaillaient et dormaient dans des wagons assez infâmes. Donc j'ai 1800 photos qui sont, je dois signer ces jours-ci, qui vont être effectivement prises par le musée des Invalides, qui dépend de la BDIC et qui sera transféré des Invalides d'ici 1 an ou 2 dans de nouveaux locaux à côté de l'université.
Rappelez-nous, la BDIC, c'est... Comment ?
La BDIC, Bibliothèque de documentation internationale, bon. BDIC. Contemporain,
voilà.
Voilà.
Vous répondez à ma question sur vos archives, parce que vous disiez que vous aviez une cantine, beaucoup, beaucoup de notes, beaucoup de photos que vous
Alors,
avez conservées.
Alors, effectivement, tout ce qui est écrit et tout ce que j'ai pu récupérer sur le moment de rapports officiels aussi, sont à l'IHTP. Déposé à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et je dois aussi signer ces jours-ci tout ce qui est bande sonore, c'est-à-dire interviews qui ont été faites, donc après la guerre, 66-67. Il y en a même de quelques bandes de 89-90 qui sont prises par les archives nationales. Donc Fontainebleau, mais qui vont être transférées à Saint-Denis.
D'accord. Merci, madame. L'album graphique, donc comment vous l'avez conçu, construit
En fait, la construction, elle est... La grosse différence par rapport à mes livres précédents, c'est que dans un cas, j'avais une adaptation d'un livre qui existait. Donc en fait, j'avais une base de travail qui avait un début, une fin, un déroulement. Moi, je pouvais reséquencer les choses, mais j'avais une visibilité en fait sur l'ensemble du livre, presque au départ en fait du travail. Tandis que là, comme je souhaitais travailler sur des témoignages, mon but était déjà de rencontrer des personnes et de me dire qu'il allait falloir que je commence à travailler sur le sujet avant même d'avoir toutes les pièces du puzzle. C'est-à-dire que la méthode que j'ai adoptée au niveau de l'histoire est très simple. Finalement, c'est une famille algérienne qui arrive au bidonville et qui en repart à la fin. On ne peut pas faire plus simple. Ce n'est pas du tout une intrigue comme on pourrait l'avoir dans un roman policier où, en fait, si vous n'avez pas les rouages aux bons endroits, la machine ne marche pas. Donc là, j'ai développé une structure qui était assez souple, en essayant de trouver des séquences principales à chaque fois qui me permettaient de brosser les thèmes qui m'intéressaient par rapport au sujet du bidonville. Et après, je me suis dit, j'ai travaillé 2 ans et demi sur le projet. Si au bout de 2 ans, je découvre une nouvelle personne qui va me raconter un détail ou un autre élément que dont je n'avais pas connaissance ou qui va le raconter surtout d'une manière différente, il ne faut pas que je me prive de l'intégrer dans l'histoire ou dans le récit. Ça peut le servir, au contraire. Donc, du coup, c'était une histoire un peu où la structure générale était construite, où les articulations principales se sont faites un peu au fur et à mesure, ou à force de discuter aussi avec Monique, avec Bouchaïb, avec des personnes qui ont été des conseillers réguliers, ça me permettait aussi de m'immerger dans le sujet, parce que c'est un sujet que je n'ai pas vécu, ce qui fait la différence fondamentale avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et donc ensuite, c'était un peu il y avait des fois des scènes où je ne savais pas, où je les ai des fois dessinées une première fois, tout en n'étant pas satisfait et en ne trouvant la clé ou le sens que je pouvais faire passer dans ces scènes que plus tard, c'est-à-dire ce qui m'imposait de la redessiner. Donc ça a été à la fois des fois combler des trous, rajouter des séquences ou des fois redessiner des séquences parce qu'en fait, il y avait. Parce que j'avais compris des choses différemment. Voilà. Et là où le travail avec Monique et avec Bouchaïb a été très précieux, c'est que, par exemple, sur des scènes, chaque fois que j'ai rencontré les gens, ils me disaient « mais on a peut-être pas grand-chose à dire, etc. » Ça durait 3 heures, parce que c'est une discussion un peu à bâton rompu. Je viens pas avec de caméra, d'appareil photo. On discute comme on discuterait autour d'une table avec un café. Donc les gens parlent souvent très facilement. Une fois qu'on a précisé quelle était l'optique du livre, c'est-à-dire, surtout en disant ce qu'on veut pas que ce soit, on ne sait pas très bien vers où on va, mais on sait ce qu'on veut pas, le résultat qu'on ne veut pas. Donc les discussions sont faites comme ça, mais forcément il y a tout un tas de sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne pose pas les questions. Et le livre, lui, parce qu'il me ramène au récit, parce qu'il me ramène à une construction narrative, il me fait aussi me poser des questions très spécifiques sur comment je vais mettre en scène, par exemple, un incendie dans le bidonville. Et à ce moment-là, je fais mes premiers découpages et j'y arrive pas parce qu'en fait, il manque des éléments. J'ai du mal à imaginer ce que ça pouvait être. Je l'imagine, mais que de manière un peu globale. Et l'intérêt, c'est d'essayer de le dessiner plus précisément. Et donc là, j'appelle Monique, qui me répond. On discute 1 heure au téléphone. Elle me donne tout un tas de détails. Là aussi, c'est plein de détails qu'elle qu'elle connaît, mais comme on s'est vu déjà certainement plein de fois avant, mais comme on n'a pas abordé le sujet, comme moi je ne me posais pas ces questions, moi on n'avait juste pas évoqué précisément ce détail sur l'incendie. Et du coup, je découvre des choses et je redessine. Voilà, et ça s'est fait souvent comme ça, sur des va-et-vient, où finalement, moi aussi, j'ai retrouvé ce que je recherchais au départ, c'est-à-dire pas être... avec un témoignage au départ et me livrer un exercice solitaire d'adaptation sur un tunnel de 2 ans, mais au contraire être sur un processus où quand j'ai besoin, je peux rencontrer les gens puisqu'ils sont là et ils ont des choses à dire et c'est ça qui m'intéressait.
En tout, donc, vous avez mis
2 ans et demi sur le projet. Mais j'ai presque... La première année, c'était... en fait, j'ai découpé... Découpé, c'est l'équivalent du storyboard au cinéma, en fait. Mais j'ai découpé presque l'histoire sur 100 pages la première année. Et en fait, j'ai tout repris après parce que je trouvais que c'était pas très... c'était pas satisfaisant. En fait, ça m'allait pas. Mais cette première année, ça a été aussi un moment où j'ai rencontré des gens, où j'ai aussi, moi, cherché comment je pouvais raconter une histoire, ce que j'avais pas fait pour l'instant. Enfin, je m'étais toujours reposé sur... sur un livre, sur une adaptation. Mais au final, en fait, ce que j'ai fait, c'est une forme d'adaptation aussi. Là, c'est une adaptation de témoignage. Il y a les mêmes questions, en fait.
Oui, je trouve que cette bande dessinée, c'est important qu'elle soit lue par beaucoup de gens parce qu'elle reflète exactement, si vous voulez, le côté humain du bidonville. C'est-à-dire que je pense que Laurent a très bien saisi tout ce qui était boue dans le bidonville, où c'était vraiment infâme, que tout le problème de l'eau, il y avait... un seul point d'eau pour 10 000 habitants, et ça, tu as très bien su le rendre. Et moi, je suis impressionnée, si vous voulez, qu'au fond, à la limite, ces deux livres qui se complètent. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est parce que le tien apporte tout l'aspect vie du bidonville et l'autre est beaucoup plus axé sur l'aspect guerre. Voilà.
Oui, moi je trouve aussi que ce sont deux livres qui se complètent ou qui renvoient qu'on a soit on commence par l'un, on a envie de lire l'autre ou le contraire. Je pense que j'espère que c'est ce qui va se passer. Ils sont parus il n'y a pas très très longtemps. Là, mais j'espère que c'est ce qui va se passer, que ça va donner envie, en plus de faire connaître cette période très mal connue. Que,
oui, c'est une, je dirais, c'est une génération où, à une époque, moi, je me suis dit, elle va disparaître, parce qu'on parlait de la seconde, troisième génération, et ainsi de suite. Mais cette génération, j'avais peur qu'elle passe complètement à la trappe, qu'on n'en garde aucun souvenir. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui rentrent, si vous voulez, en ligne de compte, puisque les parents, donc, de cette génération refusaient tous la nationalité française. On leur faisait des pressions pour avoir un logement, vous devez changer de nationalité. Et ça, ils m'ont tous dit, jamais nous ne changerons. Et je pense qu'effectivement, sur le problème logement, il y a eu beaucoup de choses qui ont joué, parce qu'il y avait déjà des rapports en 1950, comme quoi la femme algérienne devait porter des jupes courtes et non pas des jupes longues. C'est textuel dans les rapports. et des rapports officiels. Elle ne devait pas porter des bijoux, des anneaux d'argent aux chevilles, parce qu'il y avait dans certaines régions, et notamment les Chaouyas, portaient des très beaux d'ailleurs en argent. Il ne devait pas. Il devait, mais ça allait très loin. Si vous voulez, je fais souvent des rapprochements de ce qui s'est passé par la suite. Tous ceux qui, au fond, avaient mainmise sur cette population au point de vue administratif, c'était les anciens des colonies. C'est-à-dire qu'on les mettait au poste des préfectures en disant, de toute façon, eux et eux se vantant, en disant, on les connaît. Vous, en France, vous ne les connaissez pas, donc ils obtenaient des postes. Et c'est, au fond, pourquoi ont tant duré les bidonvilles ? Je pense que c'était une suite d'un maintien d'une certaine forme de colonialisme. Ce n'était pas une affaire de territoire, mais c'était une affaire de mentalité.
Oui, c'est très très intéressant ce que vous dites.
Oui, parce que le logement, en fait, on leur faisait faire des demandes de logement.
Oui.
On leur disait même, si vous ne renouvelez pas votre demande, vous n'en aurez jamais. Et en fait, ils ne dépendaient pas des services de relogement. Oui. On ne les leur relogeait que lorsqu'il y avait un rasage, c'est-à-dire le besoin d'un terrain qui avait été gelé un certain nombre d'années, et là, lors d'un rasage, à ce moment-là, on était obligé de les mettre en cité de transit, parce que n'oublions pas, ils n'allaient pas en HLM. Les cités de transit étaient, dans les rapports, considérées comme écoles d'éducation. Il fallait qu'ils fassent comme nous. On continue, oui, si vous voulez, tout le... Quand on le voit, enfin moi je le vois sur 60 ans, on voit le parcours qui est, au fond, identique. On ne reconnaît pas, et c'est ça, moi, qui me frappe aujourd'hui, deux choses. On ne reconnaît pas leur culture. On reste à l'état de la presse de 48-49 qui disait « c'est des sauvages ». Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que, au fond, on n'en voulait pas. On pensait... Oui,
soit ils s'intégraient complètement, soit...
Comment ?
Soit on les forçait à s'intégrer complètement.
Voilà.
Soit il fallait qu'ils restent dans le
voilà.
parquet. Dans
oui,
le...
oui, oui, oui. Il n'y a pas de limite, si vous voulez. C'est faire comme nous. Être comme nous, la copie conforme. Sinon... et en plus, notamment au niveau des femmes, puisque les hommes encore, c'était une force de travail, pelle et pioche à l'époque, mais les femmes, on n'en voulait pas. Donc il y a eu un espoir qu'à l'indépendance, ils repartent tous chez eux. Vous voyez, il y a des quantités, quand on analyse, il y a des quantités de choses qui se sont produites et qui, en fait, on n'en a jamais voulu. Parce que je me rappelle d'un incendie très grave qui s'est produit au bidonville, où trois jeunes enfants d'une même famille ont brûlé. Là, tout le monde a dit dans le bidonville... Bon, ben, ils vont faire quelque chose. Hein, c'était en 66. Eh bien, ils n'ont rien fait.
Donc, vous êtes resté jusqu'en 71,
oui.
quand le bidonville a été résorbé. Et après, vous êtes resté en contact avec certaines familles, certaines personnes?
Ben, c'est-à-dire que en 73, moi, je suis rentrée à la CIMAD et je me suis occupée des foyers, comme vous disiez tout à l'heure, d'Africains, Mauritaniens, Maliens, Sénégalais, avec un groupe d'avocats. Et avec Jean-Jacques de Félis, j'ai créé le Gisti. Je me suis occupée de tout ce problème-là, qui était aussi un problème affreux dans Paris et l'approche banlieue. Et puis, en 81-82, les habitants des cités de transit à Nanterre m'ont demandé que je vienne parce qu'on commençait, le gouvernement commençait à parler de la résorption des cités de transit, et là on voulait les reloger dans des zones à nouveau de rénovation, c'est-à-dire qu'on repartait pour un tour dans des vieux taudis rénovés, enfin à rénover, et que quelques années après ils allaient à nouveau être sans logement. Donc, si vous voulez, avec deux Algériens, on a été trois délégués pour, pendant quatre ans, à lutter pour que les familles arrivent à avoir un HLM.
Bon. Est-ce que vous voulez pas nous dire quelques mots sur la façon dont vous dessinez, sur votre style Votre façon de travailler
sur le comment dire, sur ce livre-là. Sur ce livre-là, en fait, l'idée était de. En fait, j'ai défini un certain nombre de contraintes au départ. Comme c'était un travail sur du témoignage, je voulais que le dessin et l'histoire portent le récit, mais soit facile d'accès également en termes de dessin et de découpage, c'est-à-dire que les gens puissent rentrer facilement dans l'histoire, rentrer facilement en contact avec les personnages, ce qui fait que j'ai à l'origine opté pour un principe de gaufrier, c'est-à-dire une série de cases, donc quatre strips avec des cases, soit il y a trois cases sur une ligne, soit deux, soit une seule. Très peu finalement d'effets de mise en scène ou de mise en page plus compliqués comme j'avais pu faire sur les livres précédents. Et un travail qui était à petite échelle sur les originaux, c'est-à-dire que c'est des originaux qui font un format A4, donc il n'y a quasiment pas de réduction par rapport au dessin original. Et du coup, j'ai cherché l'outil qui me permettait de pouvoir dessiner à cette échelle-là des choses détaillées, précises, comme des sortes d'ambiance, d'amas, de matière, puisqu'en fait, pour dessiner le bidonville, je savais que j'allais aussi avoir besoin d'être des fois plutôt dans la suggestion que dans un dessin extrêmement précis des matières qui s'amoncelaient. Donc le dessin, il est au rotring. Un rotring très, très fin, de 0,25 mm. Voilà. C'est dessiné sur calque et avec des rehauts de gris, de crayon gris pour faire les vêtements des personnages ou faire ressortir certains éléments de l'architecture. Le dessin sur calque au rotring avec les rehauts de gris, c'est la technique en plus emblématique de toute l'architecture des années 40, 60, 50, 60 et 70 et 80. Hein, toutes les banlieues parisiennes ont été dessinées avec ce principe-là, ces techniques-là. Donc c'était un clin d'œil aussi assez marrant, je trouvais, dessiner un bidonville au rotring. Et puis surtout, au niveau du dessin, ça me permettait d'avoir un dessin assez aérien, assez léger. Et ça, j'avais envie de garder cette fragilité au niveau du trait. Quant aux scènes de nuit, scènes de neige, etc., sur quelques scènes, en fait, on a utilisé, j'ai scanné un calque gris pour obtenir une matière un peu foncée et pour pouvoir la réintroduire sur certaines parties de l'histoire pour rythmer les zones de nuit avec les zones de jour. Le but étant toujours de trouver un effet qui peut se rapprocher un peu d'une gravure ou de, voilà, d'une aquatinte. C'est-à-dire d'avoir toujours aussi, dans la qualité du trait, dans la qualité des matières, quelque chose d'un peu chaleureux, pas un dessin froid, pas une couleur informatique ou un aplat parfait, pas de dessin non plus trop sec, en fait.
Oui, c'est super. Ce qui est fou, c'est le... Bon, le rotring est très, très fin, mais et, du coup, vous avez des détails d'une finesse et d'un minuscule sur certaines scènes qui sont des cases pas très grandes, en fait, et qui grouillent de petits détails. C'est impressionnant, quoi. On voit un camion avec des personnes dedans... sur une case qui fait quelques centimètres, elle a, avec les bidonvilles, une scène à côté avec des gens qui sont autour d'un feu, des gros tuyaux. Enfin, c'est incroyable tout ce que vous dites dans une petite scène comme ça. Et puis comme on dit, des cases, parce que je ne connais pas bien le langage de la BD. D'autres cases qui sont plus grandes, mais c'est assez exceptionnel. Comme la gare, là, où j'ai vu une case qui est une image... C'est très, très varié, comme les formats, le rythme, l'image, là, quand ils se baignent dans la mer. Là,
C'est varié au niveau très varié. C'est varié au niveau du rythme, mais il y a tout un tas de contraintes qui sont fixées au départ, je voulais ça, mais qui me coupent déjà tout un panel aussi de possibilités que je ne veux pas utiliser.
Vous êtes donné des contraintes...
Par exemple, sur le point de vue... Oui. Je veux qu'on soit avec les personnages pendant toute mon histoire. Je veux que le lecteur ait la sensation d'être avec les personnages. Donc, tout le dessin est toujours dessiné à hauteur d'homme.
Ah oui.
Il n'y a jamais de plongée, de contre-plongée. Il n'y a pas une case où il va y avoir une plongée sur les personnages ou une contre-plongée juste parce que c'est un effet différent et que comme je n'aurais pas utilisé cet effet-là avant, je me dis que ça va rythmer ma page différemment. J'ai essayé de trouver des rythmes différents. Essayer de ne pas travailler justement avec des effets qui seraient juste plaqués, qui ne serviraient pas le récit, et faire en sorte que le... Parce qu'en fait, la grosse inquiétude sur ce livre-là, c'est que travailler sur du quotidien, travailler sur des gens qui vous racontent en fait comment ils vivent, ça peut être aussi ennuyeux. Enfin, si c'est pas la manière de le raconter, ça peut aussi être rébarbatif. Quelqu'un qui vous raconte ses vacances devant une projection de diapo un soir, vous voyez, c'est aussi très ennuyant des fois le quotidien. Ce que je voulais ici, c'était essayer de retrouver un rythme, un ton qui soit assez vif, comme quand on s'assoit avec Monique pour discuter. Elle parle de ce qu'elle a vécu, mais c'est à la fois imagé, c'est vivant, il y a plein de choses et on se lasserait pas d'écouter. Donc ça a été ce travail sur le rythme, ça a été un des enjeux majeurs, on va dire, du livre.
En fait, quand on l'ouvre, ça paraît un peu aride, hein, cette ligne fine, noire, très finalement un aspect régulier comme ça. Et parce qu'en fait, ce sont des contraintes que vous êtes données vous-même. Mmh. Mais finalement, c'est hyper prenant.
Mais c'est un peu comme dans le livre de Monique, la contrainte de travailler sur des notes. Il n'y a pas de fioriture en fait dans sa manière d'écrire.
Non.
C'est direct comme ça. C'est, c'est des faits qui sont relatés dans leur dureté aussi, dans aussi les moments, les quelques rares moments dedans où il y a de la joie et une espérance là dedans. Ben du coup ça devient un souffle, mais il n'y a pas d'enrobage en fait. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, ça m'a intéressé. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a intéressé chez Albert Londres, même si lui, il aimait bien travailler sur certaines tournures de phrases. Mais avoir une structure qui est claire et bien identifiable, ça permet de guider, de donner une ligne directrice assez facile aussi à décrypter pour le lecteur.
Non, je trouve que la forme, le style... de vos deux ouvrages là sont vraiment magnifiques et très bon, très liés forcément au contenu, hein, mais vous avez réussi à... Enfin, je pense que pour Monique ça coulait de source, puisque ce sont des... Si on avait été plus nombreux, j'aurais proposé qu'on lise un petit passage. un petit passage. Est-ce que vous l'avez lu tous ou vous le découvrez? Vous le découvrez? Vous avez regardé un petit peu c'est, tu veux pas lire un passage, toi, Lucille? Monique, vous voulez nous lire un passage? Vous savez pas bien lire? Laurent? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui est...
Dans le livre, je ne sais pas... Il doit y avoir un passage certainement ici.
Pendant que vous cherchez, je voulais poser une question.
Ah oui, alors vous pouvez poser une question.
En fait, vous parliez de 10 000 personnes pour... C'était sur celui de la folie ou... Ah pardon. Vous parliez de 10 000 personnes, mais c'était uniquement sur celui de la folie ou sur l'ensemble des bidonvilles de Nanterre?
Ah non, 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 uniquement celui de la folie.
Combien, vous savez combien il y avait de personnes? Parce qu'il y avait plusieurs bidonvilles.
Sur Nanterre, à cette époque-là, hein, il y avait 17 bidonvilles. Et en France, il y en avait 527.
Et les 17 de Nanterre n'étaient pas tous de cette taille-là? C'était le plus grand,
non,
c'est ça? Après, c'est...
Non, celui où j'ai été était le plus grand. D'autres étaient, ça allait de disons, on appelle bidonville, parce qu'après il y a eu des termes de micro-bidonville, mais bidonville à partir de 300 personnes, quoi, hein. Mais là, c'était le plus grand. Et dans la région parisienne, c'était aussi avec celui de Champigny, mais qui était des Portugais. Voilà, c'était les deux plus grands.
Non, mais je voulais savoir, parce que moi, j'ai vécu dans les bidonvilles, justement, celui de Nanterre, et à Pâquerette.
Au Pâquerette.
Voilà. Donc, oui. Je voulais savoir si c'était...
Oui, oui, oui. Ben, au Pâquerette, il y avait plusieurs morceaux, mm-hmm. d'ailleurs. Mm-hmm. Rue des Tartarins, oui. des Quéants. Il y alors... avait plusieurs. Mm-hmm. Et puis, il y avait alors le bidonville Avenue de la République, voilà. qui oui. était au Pont de mm-hmm. Rouen. Il y avait celui qui était aussi grand, Rue des Prés. Oui. Et il y en avait alors de moindre importance, et notamment autour de la folie, il y avait un bidonville rue de Valenciennes, où il y a eu un effondrement, c'était sur des enchaînes champignonnières, et puis un qui était un peu plus haut, mais encore rue de Valenciennes, il y avait rue de Lens, et il y avait Édouard Colonne. Vous voyez, il y avait des tas d'endroits, bon, moins importants, mais c'est pour ça que quand on dit le bidonville de Nanterre, non, c'est complètement faux. C'était vraiment, enfin, parsemé sur Nanterre, mais il y en avait, je vous dis, en France, moi j'avais été voir aussi et photographier un notamment à Lyon, qui était très important et qui était au bord du Rhône, où vous aviez le papier goudronné qui tombait dans l'eau du fleuve. Enfin, c'était invraisemblable, quoi.
Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que moi, j'étais jeune et c'est vrai que j'avais un bon souvenir du bidonville, parce que j'étais avec mes oncles qui, justement, après, je l'ai su plus tard, qui avaient tout fait justement pour cacher cette misère et que tout se passe bien. Et c'est vrai quand vous disiez que, bah oui, on allait à l'école très bien habillé.
Ah oui, 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 parce qu'il y avait une dignité. Justement, il disait, je me souviens, mais nous, on n'ira jamais, par exemple, on est mal logé, on n'a rien, mais on n'ira jamais dans la rue. Il y en avait qui allaient à la fontaine, mais qui se changeaient pour être très bien habillés. Si jamais une voiture qui passait avec des copains de chantier ou des choses comme ça, j'ai vu des femmes porter dans leurs bras des enfants déjà de 12-13 ans pour que leurs chaussures n'aient pas de boue.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, il y avait une dignité, quelque chose qui est frappant. Il y avait... de vouloir par exemple, les chaussures, ils changeaient de chaussures en arrivant vers, par exemple, le bus, et ils cachaient les anciennes, les chaussures avec la boue pour les reprendre le soir. Parce qu'ils me disaient, à la gare Saint-Lazare, qui desservait, on se reconnaît entre nous par la boue des chaussures, s'il y en a. Oui, oui, oui. Non, il y avait une volonté d'être comme tout le monde. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on, au fond, on les considérait pas comme tout le monde.
C'est vrai, parce que mon père m'accompagnait à l'école en costume-cravate. Je crois que c'était le seul souvenir que je garde de lui, parce qu'après... Et puis, c'est vrai qu'ils avaient aussi, quand ils ont rasé le bidonville où j'étais au Pâquerette, j'avais pleuré, parce que moi, j'étais bien là. Et ils nous avaient installés justement dans ces maisons de transit à côté de la papeterie.
Oui, voilà, la papeterie voilà. De la Seine.
Et puis après, des années après, mon père avait trouvé un logement. Enfin, il était éboueur pour la ville de Paris, donc ils avaient trouvé un logement à Colombes dans un HLM. Et c'est vrai que là, c'était... J'ai des souvenirs dans ce grand HLM, une baignoire, plein de pièces. Enfin, c'était.
Et je pense qu'il y a eu de familles algériennes qui sont passées par les bidonvilles de Nanterre, parce qu'à chaque fois je vais pour des rencontres, des choses comme ça, même en Algérie, je rencontre toujours à nouveau des gens, soit que j'ai connus, soit sur d'autres bidonvilles de Nanterre, comme vous. Je pense qu'il y a eu que les statistiques sont absolument fausses, parce qu'il y avait un va-et-vient énorme. Et effectivement, de gens qui n'ont pas été fichés, disons.
Merci.
Donc, j'aurais pu prendre le 17 octobre 61, mais en fait, je vais prendre le 17 septembre 61. Donc, Pont de Neuilly. Dans la nuit, des agents précipitent un Algérien dans la Seine. Brigitte me communique l'information. Le lendemain, trois lignes dans un journal relatent la noyade d'un père de famille, sans explication. Mimoun est né dans un douar retiré du sud-est des Aurès, vers les monts de Nemencha. Fils aîné de la famille, il accompagne Warda, sa mère, à Paris. Elle ne sait ni se diriger dans les couloirs et correspondances du métro, ni lire le nom des stations. Tous les deux rendent visite à l'une des sœurs de Mimoun hospitalisée à Paris. 13h30. Ils s'apprêtent à franchir la porte de l'hôpital des enfants malades. Un quart de police s'arrête à leur côté. Des policiers se précipitent sur Mimoun, le plaquent contre le fourgon, le fouillent, le tabassent. « Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit de circuler dans ce quartier ?» braille-t-il tout en continuant à le cogner. La mère veut s'interposer. Elle supplie pour son fils. Les agents la repoussent. Elle tombe par terre et sa tête heurte la bordure du trottoir. Tandis que, avec beaucoup de peine, elle essaye de se relever, les agents entraînent Mimoun dans le car. Conduit dans un commissariat de la capitale, il y reste 3 heures. Nouveau passage à tabac. Avec un bâton, les policiers le frappent sur le dos. Chaque fois qu'il tente difficilement de se lever, une matraque s'abat sur lui, le renvoyant au sol. Après quoi, les inspecteurs lui demandent ses papiers d'identité et, sans les regarder, les jette sur le plancher. Puis Mimoun se retrouve, avec plusieurs Algériens, dans une salle où d'autres agents finissent de briser sa monture en la piétinant. Depuis longtemps, ses lunettes sont réduites à un bout de fil de fer tordu. Lorsque Mimoun arrive à regagner la baraque, ses jambes peuvent à peine le porter. Perclus, il raconte « Moi, c'est rien, mais il y avait 2 Algériens avec moi. Les flics leur piétinaient la tête et le ventre avec leurs souliers. Sûrement qu'ils ne s'en sortiront pas vivants. » La police a conservé sa carte de sécurité sociale.
Merci. On vous remercie pour votre présence, parce que c'est très sympathique.
Merci.
Mais à la fin, cette photo est vraiment très émouvante.
Alors, cette famille, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Le père est décédé, mais la mère a même apporté dans un sac la robe qu'elle avait le jour de l'indépendance.